Kairoua, Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous et bienvenue dans Le Monde aujourd'hui, édition du mercredi 10 février 2021. John Linden à la présentation. Tout d'abord, les titres. Dans le centre du Mali, une nouvelle attaque contre un camp des casques bleus fait une vingtaine de blessés. Attaque également d'un poste de gendarmerie au Burkina Faso, bilan au moins un mort. Ici aux États-Unis, le procès de Donald Trump se poursuit au Sénat. Et puis, première visite ce mercredi de Joe Biden au Pentagone sur fond des débats sur l'extrémisme au sein de l'armée. Également dans cette édition, l'économie et les sports, mais tout d'abord, le journal. Une fois encore, bonsoir. Au Burkina Faso, une attaque contre un poste de gendarmerie a fait au moins un mort. Ça s'est passé dans le sud-ouest, près de la frontière avec la Côte d'Ivoire. Le point avec Abdourahmane Dia.
Selon une source sécuritaire, l'attaque a été menée par une dizaine d'assaillants à bord de motos. Ils ont ciblé directement le poste de gendarmerie, occasionnant également quelques dégâts matériels. L'assaut a duré au moins une heure, selon une source administrative locale citée par l'AFP. Cette même brigade de gendarmerie de Wo, commune rurale à une cinquantaine de kilomètres de la frontière ivoirienne, a déjà été la cible d'une attaque en janvier 2020 sans faire de victimes. Le Burkina Faso, frontalier du Mali et du Niger, est le théâtre d'attaques djihadistes depuis 2015. D'abord concentré dans le nord du pays, limitrophe du Mali, les exactions attribuées à des groupes djihadistes dont Ansarul Islam, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, et le groupe État islamique au Grand Sahara, ont fait depuis 2015 au moins 1200 morts et plus d'1 million de déplacés internes.
Emmanuel Macron a reçu mercredi à déjeuner le président du Burkina Faso, Rochma Christian Kabore, pour préparer le sommet du G5 Sahel de N'Djamena, destiné à consolider la lutte antiterroriste, a indiqué la présidence française. Arrivé de Bruxelles, M. Kabore a été le dernier des 5 présidents des pays du G5 Sahel à être reçu par le chef de l'État français qui, depuis le début de l'année, s'est successivement entretenu avec ses homologues de Mauritanie, du Niger, du Tchad et du Mali. Au Mali, justement, une vingtaine de casques bleus ont été blessés ce mercredi lors d'une attaque contre leur camp. L'attaque est survenue dans un secteur du centre du pays en proie à une activité djihadiste récurrente. Mouamadou Foumfa.
Selon le porte-parole de la mission des Nations Unies au Mali, la MINUSMA, c'est une base temporaire de l'organisation onusienne qui a été attaquée au mortier et à l'arme automatique vers 7h, heure locale et GMT. Un véhicule chargé d'explosifs avait d'abord été lancé contre le bivouac de la MINUSMA avant que l'attaque ne se déploie. Le bilan provisoire fait état d'une vingtaine de blessés qui appartiennent au contingent togolais. Les casques bleus participaient à une des nombreuses opérations menées depuis plusieurs mois par la MINUSMA dans cette partie du Mali pour réduire les violences contre les populations civiles, apaiser les tensions communautaires et diminuer la menace des engins explosifs improvisés. L'attaque survient à l'approche de deux rendez-vous significatifs. Jeudi est programmée à Kidal, au nord du Mali, une réunion des partenaires de l'accord de paix dit d'Alger, un accord portant sur le règlement politique de la crise malienne et dont la mise en œuvre se fait attendre. Un sommet doit réunir les pays du G5 Sahel et la France les 15 et 16 février à N'Djamena, la capitale tchadienne, pour faire le point sur la situation dans la sous-région.
La justice nigériane a ordonné mercredi à la Banque centrale de procéder au dégel des comptes bancaires de 20 figures du mouvement de contestation contre les violences policières qui avaient secoué les grandes villes du sud du pays en octobre. Les comptes bancaires de ces manifestants, qui avaient reçu le soutien de nombreuses personnalités à travers le monde, avaient été bloqués en novembre. Le gel était intervenu peu après la fin du mouvement de contestation qui avait duré plusieurs semaines avant d'être réprimé par les autorités et de dégénérer en émeute et pillage. Au Gabon, le parti démocratique gabonais du président Ali Bongo Ondimba a, sans surprise, remporté une majorité écrasante aux élections sénatoriales, raflant 46 des 52 sièges, a indiqué mercredi le centre gabonais des élections, qui souligne que 6 sénateurs de l'opposition ou indépendants ont également été élus. Par ailleurs, le chef de l'État gabonais doit nommer par décret 15 membres du futur Sénat, qui comptera au total 67 parlementaires. Les sénateurs sont élus pour un mandat de 6 ans. Le président Emmanuel Macron devrait recevoir vendredi à l'Élysée son homologue de Djibouti, Ismaël Omar Guelleh, après lui avoir rendu visite en mars 2019. Djibouti abrite la plus grande base militaire française à l'étranger, composée de 1 500 militaires. Notons par ailleurs que depuis 2002, les États-Unis disposent aussi à Djibouti de leur unique base forte de 4 000 soldats, d'où ils mènent des opérations contre les Chebab somaliens et Al-Qaïda dans la péninsule arabique. Quant à la Chine, elle y possède un port et une base militaire propre à sécuriser ses énormes intérêts économiques dans la région. Le Conseil de sécurité de l'ONU a apporté mardi son soutien aux nouvelles autorités de transition en Libye dans cette déclaration rédigée par le Royaume-Uni. Le Conseil de sécurité appelle l'autorité exécutive intérimaire à convenir rapidement de la formation d'un nouveau gouvernement inclusif et de lancer un processus global de réconciliation nationale. Le directeur de la Croix-Rouge éthiopienne a affirmé mercredi que 80% de la région du Tigré n'était pas accessible à l'aide humanitaire lors d'une conférence de presse en ligne depuis Addis Abeba. Abira Tola ajoute que si l'accès de l'aide humanitaire à la région ne s'améliorait pas, le nombre de personnes victimes de la faim pourrait se compter par dizaines de milliers d'ici 2 mois.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, au deuxième jour d'audience devant le Sénat, les procureurs démocrates exposeront dans le détail les charges contre Donald Trump, accusé d'incitation à l'insurrection. Eric Maniratiza.
Le Sénat entrera dans le vif du sujet à midi, 17h en temps universel, avec l'exposé des faits. La partie démocrate et la défense de Donald Trump disposent chacune d'un maximum de 16 heures. Cette séquence pourrait durer jusqu'à 4 jours. Hier, les débats ont été une question constitutionnelle. Peut-on ou non juger en destitution un ex-président? Cette question est simple. En plus des 50 sénateurs démocrates, 6 sénateurs républicains ont estimé que le procès pouvait se poursuivre. La Constitution impose en revanche une majorité des 2/3, dont 67 sénateurs, pour un verdict de culpabilité. Ce seuil semble très difficile à atteindre pour condamner Donald Trump.
Et puis le président Joe Biden effectue ce mercredi sa première visite au Pentagone sur fond de vifs débats sur l'extrémisme au sein de l'armée, après la participation de nombreux militaires en civil et anciens combattants dans l'assaut contre le Capitole. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
Le président Joe Biden sera accueilli par le nouveau ministre de la Défense, Lloyd Austin, premier Africain-Américain à diriger le Pentagone. La nomination de ce général de l'armée de terre à la retraite qui a combattu en Irak et en Afghanistan avant de diriger le commandement central de l'armée a été approuvée fin janvier par le Sénat. Cette visite prend un relief particulier durant Black History Month, mois désigné de célébration de l'histoire des Africains américains aux États-Unis, a souligné Jen Patsy, porte-parole de l'exécutif, ajoutant, je cite, « Plus de 40% de nos forces sont des hommes et femmes de couleur. Le président rendra hommage à la riche histoire des militaires africains américains. » Joe Biden devrait aborder la question de l'extrémisme et du racisme au sein de l'armée américaine. Il est le premier président depuis 40 ans, dont un enfant, Beau Biden, décédé d'un cancer en 2015, a servi sous le drapeau. Il a une connexion personnelle avec l'armée, son rôle, son importance, a déclaré sa porte-parole, Jenna Psaki.
Des milliers d'Iraniens ont défilé mercredi à travers le pays à bord de leurs véhicules pour célébrer le 42e anniversaire de la révolution islamique malgré la pandémie de coronavirus. Certains manifestants brandissaient des portraits du guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, mais aussi du général Qassem Soleimani, éliminé en janvier 2020 dans une frappe américaine à Bagdad. D'autres manifestants ont brûlé et piétiné des drapeaux américains et israéliens. Les principaux mouvements palestiniens Hamas et Fatah ont annoncé mardi un accord par lequel ils s'engagent à respecter les résultats des prochaines élections, les premières en 15 ans. Après de nombreux reports et rumeurs, le président palestinien Mahmoud Abbas a signé le 15 janvier, quelques jours avant l'entrée en fonction de Joe Biden à la Maison-Blanche, un décret pour la tenue d'élections législatives et présidentielles à mai et juillet prochains. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOAfrique et VOAfrique.com. l'actualité économique en Afrique et dans le monde, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Claire Morin-Gibourg.
Le Mali veut relancer sa culture du coton, son premier produit d'exportation. Le ministère de l'Agriculture vient d'organiser des assises nationales qui ont permis de formuler plusieurs recommandations, dont la diminution du prix des intrants et du matériel agricole, la gratuité des semences pour les cotonculteurs et la mise en place d'un programme continu. Le Gabon envisage de recruter 5352 NOU21. Principal employeur du pays, le service public a lancé depuis 2018 une réforme pour réduire les dépenses. Mais avec la loi de finances 2021, l'État planifie toutefois un nouveau recrutement. Le ministère de la Défense sera renforcé de 1400 agents et près de 600 embauches seraient réalisées par le ministère de la Santé. En République démocratique du Congo, Albert Yuma, le président de la Fédération des entreprises du Congo et proche de l'ancien président Joseph Kabila, a été rétabli à la tête du patronat quelques semaines après sa mise à l'écart, selon une décision de justice publiée ce mercredi. Homme d'affaires ayant fait fortune dans le textile, M. Yuma est également le président du conseil d'administration de la GECAMINE, la société publique minière.
À présent, la page des sports avec Yacouba Ouédraogo.
Bonsoir à tous. Athlétisme pour commencer. Des Africains ont brillé au meeting en salle de Liévin, en France. Record mondial pour Goudafa Tsesgay. L'Éthiopienne a supplanté le record du monde du 1500 mètres avec un chrono de 3 minutes 53 secondes lors du meeting. Tsesgay a amélioré de plus de 2 secondes l'ancien chrono de référence établi par sa compatriote Gezebe Dibaba, 3 minutes 55 secondes, le 1er février 2014 à Karlsruhe, en Allemagne. L'Éthiopienne de 24 ans affiche à son palmarès sur sa distance de prédilection 2 médailles de bronze lors des mondiaux 2016 en salle de Portland et des championnats du monde 2019 de Doha. Chez les hommes, son compatriote Ogedne Wale a réalisé la deuxième meilleure de l'histoire dans le 3000 mètres en 7 minutes 24 secondes à 8 centièmes du record du monde du Kenya Daniel Komen. En triple saut, le Burkinabé Hugues Fabrice Zango, recordman du monde de la discipline en salle, a mordu 4 essais, mais s'est néanmoins imposé avec 17,82 mètres. Tennis ce mercredi, pour la première fois depuis un an, un match de tennis s'est joué dans une ambiance de Coupe Davis à l'ancienne, devant plusieurs milliers de spectateurs en Australie. L'Australien Nick Kyrgios a effacé 2 balles de match avant de battre le Français Hugo Humbert. L'Allemand Alexander Zverev s'est logiquement qualifié pour le troisième tour en éliminant l'Américain Maxime Cressy. Chez les dames, Serena Williams continue de dérouler. Elle s'est imposée en 1h10 face à la Serbe Nina Stojanovic et file au troisième tour. Au premier tour, l'ancienne numéro 1 mondiale, aujourd'hui 11e en quête d'un 24e titre record en Grand Chelem, a été expéditive, n'abandonnant que 2 petits jeux à son adversaire Laura Sigmund. Pour tenter de rallier les 8e de finale, Williams affrontera la Russe Anastasia Patopova. Ici, en NBA, Utah s'est imposé pour la 16e fois en 17 matchs, en bataillant cette fois un peu plus que d'habitude face à Boston 122-108. Philadelphia du Camerounais Joel Embiid, 25 points et 17 rebonds, a pris le dessus sur Sacramento 119-111. Sans Kevin Durant, les Brooklyn Nets sont tombés à Détroit face aux Pistons 122-111. Victoire du Golden State à San Antonio 114-91. Vainqueur 2 jours plus tôt face aux Knicks 109-103. Le Heat a remis ça sur son parquet 98-96.
Merci Yacouba. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. John Linden toujours en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour. Et on commence par le Tchad. Le Tchad, où Amnesty International dénonce l'interdiction de manifestations et les arrestations. Au moins 14 personnes arrêtées le 6 février ont été inculpées pour coups et blessures volontaires, troubles à l'ordre public, destruction de biens de l'État et placées sous mandat de dépôt en N'Djamena. Une trentaine d'autres ont été condamnés à des peines de 2 à 3 mois de prison à Moundou. Certains manifestants, dont le président des transformateurs, Succès Masra, sont toujours réfugiés à l'ambassade des États-Unis. Nathalie Barge a joint Abdoulaye Diarra, chercheur sur l'Afrique centrale à Amnesty.
Il y a plusieurs membres de la société civile, des associations, des membres de partis politiques qui ont été arrêtés pour avoir essayé d'organiser une marche le 6 février. et 14 d'entre eux ont été présentés devant un juge et sont accusés de troubles à l'ordre public et de rébellion. Nous constatons effectivement depuis plusieurs demandes de manifestation de partis d'opposition, mais également demandes de la société civile sont interdites par le gouvernement et les marches également sont réprimées par la police. Et donc c'est pour cela que nous parlons justement d'atteinte à la liberté de manifestation, mais aussi à la liberté d'expression au Tchad.
Il y a également eu des arrestations et des condamnations à Moundou.
Oui, en effet, c'était un appel à manifestation dans l'ensemble du pays. Nous avons noté des arrestations à N'Djamena, mais également des arrestations à Moundou au sud du pays et également dans d'autres places du pays. Et donc, les personnes arrêtées le sont pour des questions de troubles à l'ordre public. Depuis 3 mois, les autorités italiennes ont plusieurs fois interdit la tenue de manifestations. Et ces interdictions, pour nous, constituent des restrictions qui ne sont pas nécessaires et que l'on juge comme disproportionnées au regard du droit à la liberté de réunion pacifique, mais également par rapport aux droits que procure la Constitution italienne et les traités internationaux. Nous demandons justement aux autorités italiennes de respecter les textes de loi et de garantir.
Tout cela arrive à l'approche des élections. Est-ce que vous pensez que cela pourrait notamment mettre en péril ces élections?
Nous constatons d'abord que les manifestants sont organisés au sein d'une plateforme et que chaque association avait des griefs à l'endroit du gouvernement. Nous constatons également qu'il y a de plus en plus de manifestations à l'approche justement du scrutin. Et pour garantir que ces élections se passent dans un climat apaisé, il est important que les autorités justement respectent le droit de chacun de manifester librement et de s'exprimer librement.
Quelle est la situation des transformateurs qui se sont réfugiés dans l'enceinte de l'ambassade des États-Unis?
Ce que nous savons, c'est que une partie des manifestants, dont certains membres de ce mouvement, se sont réfugiés dans le périmètre de sécurité de l'ambassade des États-Unis et qu'à l'heure où on se parle, ils y seraient encore.
Abdoulaye Diarra, chercheur sur l'Afrique centrale à Amnesty, joint à Dakar.
N'Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
De plus en plus de voix s'élèvent en Ouganda pour dénoncer la disparition de certains partisans de l'opposition. Selon les proches des disparus, ils ont été détenus par les forces de sécurité avant les élections du mois dernier. Dans le reportage de Halima Atoumani à Kampala, le gouvernement confirme que 44 personnes sont portées disparues depuis novembre et que la plupart appartiennent au parti de l'unité nationale de l'opposition. Récit Blanche Sanou.
Le 23 novembre, Lukwango Martin a été arrêté par des militaires ougandais à son étal de poissons sur le marché de Bugulobi. Quelques semaines plus tard, Marina Muyanja, la femme du disparu, dit qu'elle ne peut toujours pas retrouver son mari, même après avoir fouillé les postes de police et les hôpitaux.
Les enfants m'interrogent tous les jours sur leur père. Je ne sais pas quoi leur dire. Le plus petit tombe toujours malade. Je n'ai pas d'argent pour m'en occuper. S'il vous plaît, aidez-moi. Où qu'il soit, ramenez-le. S'il a commis un crime, laissez la justice s'en occuper. Au moins que je sache ce qui se passe.
Une semaine après que Martin a été amené, des proches disent que le personnel de sécurité a récupéré 2 mécaniciens autour du marché, dont Nalumoso Vincent, le mari de Nyanyonga. Elle dit qu'il est toujours porté disparu.
Nous souffrons tellement que le gouvernement devrait nous aider. Mon mari n'a commis aucun crime. Il ne faisait pas partie des manifestants. Ils l'ont trouvé en train de travailler sur une moto.
Le jour de la détention de Martin, 10 autres hommes ont également été arrêtés, dont Okumu Charles. Selon son témoignage, ils ont été forcés à monter dans une voiture Toyota et torturés avant que certains ne soient relâchés. Il dit que d'autres comme Martin ont été arrêtés en raison de leur association avec le parti de l'unité nationale.
cause.
Lukwago Martin est un membre du Parti de l'Unité Nationale et il se déplaçait toujours avec notre conseiller. Ils étaient toujours ensemble. Ceux qui ont été arrêtés dans le garage, le mécanicien Vincent, il était le mobilisateur du parti dans le quartier de Bougolodi. L'autre jeune homme, Agaba Ronald, qui a été arrêté, était un fervent partisan du parti. Il n'a manqué aucune des réunions.
Après avoir nié les enlèvements, le ministre ougandais de l'Intérieur, Yeyo Odong, a publié jeudi une liste de 44 personnes portées disparues dans le pays. Le général de division Paul Lekek, chef adjoint de la police ougandaise, a déclaré qu'ils avaient chargé les responsables des enquêtes criminelles et du renseignement de lui donner les noms des 44.
Dans nos agents de sécurité, j'ai mentionné que les personnes arrêtées devraient être traduites devant les tribunaux si elles constituent une menace pour la sécurité nationale.
Pendant que le gouvernement mène des enquêtes, les médias ougandais et les proches des partisans de l'opposition continuent de dénoncer la disparition de ceux qui ont été arrêtés par les autorités.
10 ans après la chute de Muammar Kadhafi, la situation politique de la Libye reste minée par des conflits. Des pourparlers politiques ont permis récemment la désignation d'une autorité exécutive unifiée pour mener la transition. Ceci a ravivé l'espoir de stabiliser la sécurité du pays. Pour en parler, Eric Manerakiza a joint à Genève Romain Grandjean du Dialogue humanitaire, directeur en charge de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord.
Aujourd'hui, plus qu'hier, et si on compare la situation d'aujourd'hui et de celle d'il y a un an, il y a de véritables progrès qui ont été réalisés en Libye, à la fois sur le plan sécuritaire, avec le cessez-le-feu du 23 octobre dernier qui tient toujours à ce jour, même si la présence de mercenaires étrangers est toujours très importante. Le cessez-le-feu est là et les combats n'ont pas repris. Donc il y a un véritable progrès sur le plan sécuritaire et un progrès aussi sur le plan politique. Il y a une feuille de route qui a été adoptée à Tunis au mois de novembre et qui commence à être mise en œuvre. Et la première étape de la feuille de route, c'est la nomination du nouvel exécutif, et ça a été fait il y a une semaine en Suisse. Aujourd'hui, le nouvel exécutif, le nouveau Premier ministre a encore une vingtaine de jours, un peu moins d'une vingtaine de jours pour proposer un gouvernement qui doit être un gouvernement inclusif et qui permette de réunifier les institutions et de préparer les élections qui sont prévues pour le 24 décembre 2021. Donc il y a de véritables progrès qui ont été réalisés au cours des 6, 7, 8 derniers mois et qui contribuent à améliorer la stabilité. Mais tout ça reste extrêmement fragile. Donc, on n'est pas à l'abri d'une reprise du conflit ou de tentatives de déstabilisation de la part de partis extérieurs.
Quels sont les éléments matériels, justement, qui expliquent ce risque ?
Enfin, c'est assez clair pour tout le monde que la présence de mercenaires étrangers sur le territoire libyen reste extrêmement importante. Aussi, la quantité d'armes sur le territoire est toujours là. Donc ce sont des indicateurs très très réel, et il y a eu des rapports du panel d'experts de l'ONU pour expliquer tout ça. Donc ça montre encore la fragilité de la situation malgré les progrès.
Est-ce que la solution libyenne devrait, disons, associer les gens de Kadhafi, notamment son fils, pour finalement retrouver la stabilité?
Je crois que depuis maintenant 3 ans, depuis 2017, il y a un véritable effort qui a été engagé par l'ONU, la Manul, et avec notre soutien d'ailleurs, pour relancer le processus politique et de manière inclusive. Et quand je dis inclusive, ça aussi implique que des éléments de l'ancien régime qui ont été exclus jusqu'à 2017 de tout dialogue politique soient inclus dans cette discussion. Et on a vu que lors du forum pour le dialogue politique là, qui s'est tenu sous l'égide de l'ONU depuis le mois de novembre, il y a des représentants de l'ancien régime, y compris de Saif el-Islam, qui participent à tout le processus politique.
Romain Grandjean du Dialogue Humanitaire, directeur en charge de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, joint par Eric Manirakiza.
Abdourahmane Dia avec vous dans Washington Forum cette semaine, la tenue le week-end dernier du 34e sommet de l'Union africaine. Le président congolais Félix Tshisekedi, qui prend la tête de l'organisation pour un an, a un agenda chargé. La lutte contre le Covid-19 et la coordination dans l'acquisition des vaccins, la restitution des œuvres d'art, le règlement des conflits et la mise en place de la zone de libre-échange continentale lancée le 1er janvier. Tout ceci alors que l'Union africaine poursuit son programme de réforme qui doit s'achever cette année. Les défis qui attendent la nouvelle direction de l'Union africaine, c'est ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et voafrique.com.
Ici aux États-Unis, le procès historique de l'ancien président Donald Trump, qui a débuté mardi au Sénat américain, se poursuit. Les sénateurs devront décider si Trump a incité à l'insurrection meurtrière du 6 janvier au Capitole, en exhortant ses partisans à affronter les législateurs alors qu'il certifiait la victoire de Joe Biden à la présidentielle de 2020. Catherine Gibson, correspondante de la VOA au Congrès, fait le point. Le récit est de Lionel Gaïma.
L'assaut meurtrier du 6 janvier au Capitole a abouti à une première dans l'histoire des États-Unis. Et l'ancien président est jugé au Sénat américain.
Hear ye, hear ye, hear ye.
Donald Trump est accusé d'avoir incité ses partisans à l'émeute après avoir prétendu qu'il avait remporté l'élection de 2020. Il leur a dit de lutter contre la certification des résultats des collèges électoraux, donnant la victoire à Joe Biden. Chuck Schumer, leader de la majorité au Sénat.
Des accusations les plus graves jamais portées contre un président des États-Unis dans l'histoire américaine.
Plus de 200 personnes ont été inculpées en rapport avec cette meute du 6 janvier, une journée particulière qui, pour les législateurs démocrates, peut constituer une source d'inspiration pour l'extrémisme domestique ainsi que les abus de pouvoir présidentiel. Jimmy Raskin, responsable de la mise en accusation de la Chambre des représentants.
Ça ne peut pas être l'avenir de l'Amérique. Nous ne pouvons pas avoir des présidents qui incitent et mobilisent la violence de la foule contre notre gouvernement et nos institutions parce qu'ils refusent d'accepter la volonté du peuple.
La garde nationale affirme qu'à la mi-mars, elle aura dépensé près d'un demi-milliard de dollars en sécurité supplémentaire pour le Capitole depuis l'attaque du 6 janvier. Au premier jour du procès, les démocrates ont présenté leurs arguments. David Cicilline, représentant démocrate.
Nous allons fournir des preuves accablantes que le président Trump est seul et directement responsable de l'incitation à l'assaut contre le Capitole.
Pour les démocrates, M. Trump doit faire face aux conséquences, même s'il n'est plus président. John Negussi, député démocrate.
Les présidents ne peuvent pas enflammer une insurrection au cours de leur dernière semaine de mandat, puis s'en aller comme si de rien n'était.
Pour condamner l'ancien président, il faudra le vote de 2/3 du Sénat, ce qui signifie que pour 100 sénateurs présents, il faudrait qu'au moins 17 républicains se joignent aux démocrates pour déclarer Trump coupable. Si Trump est reconnu coupable, les sénateurs voteront à nouveau pour décider s'il faut lui interdire de se présenter à nouveau aux élections. Ses avocats affirment que cela est la véritable raison de ce qu'ils appellent une mise en accusation politiquement motivée. Le procès reprend ce mercredi avec 16 heures pour chaque partie pour représenter des arguments et des preuves, ce qui va se dérouler au moins jusqu'à dimanche.
Et c'est la fin de ce journal à la mise à nom de Lionel Gaïma, Michel Joseph, Georges Léonard Sagnot et Gisèle Morissin. À la présentation, John Linden, édition en chef, Israël. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site internet voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. Au revoir.